Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Comment bien vivre avec ses voisins? C'est notre question du jour. Comme le dit un proverbe chinois, choisir ses voisins est plus important que choisir sa maison. Hélas, on ne choisit pas ses voisins et il nous est tous arrivé de tomber sur un voisin vétilleux, peu aimable, qui vous salue à peine dans les escaliers, avec lequel on se sent assez mal à l'aise dans l'ascenseur, une voisine qui danse le flamenco tard le soir, qui passe la tondeuse le samedi dès 8h du matin, qui fait claquer ses talons aiguilles sur le carrelage, qui perce un mur à 21h ou qui fait la fiesta en semaine jusqu'au lever du jour. Le voisinage est source de nombreux troubles anormaux et rien de pire qu'une guerre entre voisins pour nous pourrir la vie quotidienne et affecter durablement notre bien-être. Heureusement, il existe des relations de voisinage bienveillantes, chaleureuses, faites d'entraide et de petits services, notamment en milieu rural où la vie entre voisins semble la plus intense selon une étude de l'INED et du centre Max Weber intitulé « Mon quartier, mon voisin ». Ce matin, des idées et des conseils pour vivre mieux avec son voisinage, en partenariat avec le mensuel « Ça m'intéresse ». Nous verrons comment mettre fin à certains troubles et comment anticiper certains problèmes. 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser un message sur l'appli France Inter. La fête des voisins, c'est le 20 mai prochain. Racontez-nous si vous aimez ce type de réunion, un peu, beaucoup à la folie, ou alors pas du tout. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Oh, qu'est-ce que c'est?
Un panier de bienvenue pour les nouveaux voisins.
Ah ouais? Vous avez fait connaissance?
Non, pas encore, mais ils ont l'air sympas. Hein.
Mais qu'est-ce que tu fous?
Ouais, c'est les prises anti-moustiques, c'est ça, c'est trop.
Mais non, tout est trop. Le champagne, le foie gras, les livres, des sachets de glaçons. Non, attends, moi je m'installe quelque part, mon voisin m'amène ça, mais je déménage direct.
Extrait de scène de ménage. Bonjour Charlie Caillou.
Bonjour Ali.
Vous êtes conseiller juridique pour particulier à particulier pour le site d'annonce immobilière PAP.fr. Vous êtes également chroniqueur sur France Info le dimanche matin à 6h50 et 8h20. Et ça s'appelle C'est ma maison. Bonjour Dominique Picard, bienvenue.
Bonjour Ali, merci.
Vous êtes professeur émérite de psychologie sociale à l'Université Paris 13, habitué de cette émission. Vous avez écrit avec Edmond Marc un Que sais-je sur les conflits relationnels. Bonjour Joannie Caillouette-Ramblière, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, chercheuse à l'INED et vous avez publié avec le centre Max Weber une étude intitulée « Mon quartier, mes voisins ». Bonjour Frédéric Carpita.
Bonjour Adi.
Chef du service économie-société du mensuel « Ça m'intéresse ». Vous publiez un papier intitulé « C'est quoi être un voisin aujourd'hui ?» Alors, un voisin, nous dit le Robert, c'est la personne qui vit, habite le plus près, personne qui occupe la place la plus proche. Le voisin, on l'aime bien, mais pas trop proche quand même, hein, Dominique Picard. Hein, quand votre sympathique voisin devient un peu trop intrusif, comme le personnage de Kramer hein, dans la série Seinfeld, ce voisin qui surgit à n'importe quel moment chez son voisin de palier. Bon, on l'aime bien, mais pas trop.
Ben oui, parce qu'il y a d'abord, d'une façon générale, les personnes intrusives ne sont pas agréables à fréquenter, mais là, plus particulièrement, le problème, c'est qu'on ne peut pas lui échapper à son voisin. Donc, tout problème avec son voisin prend des grandes proportions parce qu'on peut pas fuir, tout simplement.
Ce qui est étrange avec les voisins, c'est que c'est pas vraiment un intime, c'est pas un ami, mais il sait beaucoup, beaucoup de choses de notre intimité, de nos bruits intimes, de nos mœurs, de nos odeurs de cuisine, des personnes que nous fréquentons. Le voisin se rappelle à nous, au cœur de notre intimité, hein, Dominique Picard.
Oui. Oui, oui. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans l'étude sur les voisins, c'est qu'en fait, le voisin est une sorte d'intermédiaire donc entre un proche et un étranger, et la notion même de voisinage est une sorte d'interface entre le public et le privé. Donc ils ont accès à notre intimité, enfin à une partie de notre intimité quand même, n'exagérons pas, mais ils ont accès à quelque chose de notre intimité alors que ce ne sont pas des proches, et ce ne sont pas non plus des étrangers parce que on est contraint de les fréquenter, vous me diriez, comme des collègues de bureau, mais pas tout à fait pareil, parce que les collègues de bureau, ils sont cantonnés dans un endroit et à certaines heures, tandis que le voisin, il peut être là tout le temps.
Votre regard, Joannie Caillouette-Ramblière.
Eh bien, effectivement, je me retrouve complètement dans ce que vient de dire ma collègue. Hein. C'est cette fameuse notion de l'inconnu familier. En fait, le voisin, c'est à la fois, surtout dans l'espace urbain, tous ces gens qu'on croise dans la rue, etc. Ça, c'est des inconnus, c'est des gens qu'on ne va pas revoir ensuite. Le voisin, on ne le connaît pas forcément beaucoup plus qu'une personne qu'on va croiser dans le RER, etc. Mais il devient familier, donc on doit lui dire bonjour. On a une certaine mémoire des relations qui se créent. Et puis, surtout, nous, ce qui nous a intéressé dans l'enquête, c'est ceux qui dépassent ce stade d'inconnus familiers et avec lesquels on noue des relations et qui sont quand même assez importants en nombre. Et donc, on aura probablement l'occasion d'en reparler.
On reviendra largement sur votre étude de Mon quartier, mes voisins. Mais quels sont les principaux enseignements? Les relations de voisinage n'ont pas vraiment changé en 40 ans.
Effectivement, c'est une découverte de cette étude d'avoir voulu en fait comparer avec la dernière grande enquête qui avait été faite sur les relations de voisinage, celle de 1983. Ce qu'on observe en comparant 40 ans de relations, c'est que finalement l'intensité des relations, la probabilité d'entrer en relation avec ses voisins pour des services, pour aller l'un chez l'autre, pour simplement discuter, est resté étonnamment stable avec des taux de stabilité qu'on observe assez rarement, alors que la société a considérablement évolué entre-temps. On pense que dans l'enquête Contact de 1983, effectivement, les relations même par téléphone avec les voisins étaient rares. Aujourd'hui, ces voisins, ils sont à la fois dans l'espace commun, mais aussi on les a souvent sur nos réseaux sociaux, sur nos comptes Facebook, dans nos répertoires téléphoniques, etc. Donc effectivement, la nature des relations peut avoir évolué, mais l'intensité des relations qu'on noue dans notre espace proche reste stable.
Alors Charlie Caillou, la promiscuité est forcément source de troubles, voire de conflits.
Ah oui, enfin forcément non. Moi, j'ai des voisins et j'ai pas de conflit avec eux. Mais
de troubles parfois.
De troubles, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que ce qui est répréhensible par la loi, c'est simplement le trouble anormal. Ce qui signifie, comme vous le suggériez, qu'il y a des troubles normaux de voisinage, c'est-à-dire qu'il faut accepter de supporter un certain nombre de désagréments liés à la vie en collectivité. C'est particulièrement vrai dans les immeubles collectifs, un peu moins à la campagne où on subit un peu moins quand même la promiscuité de ses voisins.
C'est quoi un trouble normal et c'est quoi un trouble anormal?
Alors, la définition du trouble anormal de voisinage a été définie par les tribunaux au fil des affaires, petit à petit. Et donc, la normalité, c'est trois critères. C'est l'intensité du trouble, c'est la durée de ce trouble ou sa persistance. Et donc, on va essayer de faire entrer le trouble en question dans ces trois critères-là pour savoir si effectivement c'est un trouble anormal de voisinage. C'est le juge qui décide ça in concreto, c'est-à-dire en prenant les circonstances de fait. Et donc, eh bien, il décide au cas par cas de la condamnation ou non du propriétaire du voisin bruyant.
Frédéric Carpita de Saint-Mathérès.
Oui, justement, à propos de ce qui se passe dans les zones rurales où on a l'impression que c'est un peu apaisé, on a fait des sujets là-dessus, alors avec les coqs, les vaches, etc. Et il y a un animal dont on parle assez peu et qui est vraiment dérangeant, ce sont les chiens. Ouais. Les gens qui habitent dans des petits villages, qui connaissent quasiment tous les chiens et les chiens connaissent tous leurs voisins humains. Mmh. Est-ce que il y a parfois on a l'impression qu'il y a une meute de loups qui s'excite en fait pendant toute la nuit. Est-ce que ça c'est normal ou est-ce que c'est anormal? Bah, à partir du moment où on peut pas maîtriser un chien sauf à l'enfermer et souvent les gens refusent de le faire.
Bah, là encore c'est le juge qui décide. Donc bien sûr on peut agir en justice pour essayer de faire condamner son voisin à rentrer le chien lorsque le propriétaire du chien est absent pour éviter qu'il hurle à la mort pendant toute la journée. Mais je dirais que de toute façon, la plupart de ces litiges-là se règlent et doivent se régler avant le stade de la qualification de trouble anormal de voisinage. C'est-à-dire qu'on va d'abord voir son voisin, on lui explique la situation et on essaie de trouver une solution amiable. Après, effectivement, si tout le monde a un chien dans le village, bah, ça veut dire qu'à un moment, tout le monde est plus tolérant aussi avec les chiens.
Joannie Caillouette-Ramblière, peut-on dire que les troubles du voisinage sont une forme de relation?
Les conflits, en tout cas, sont une forme de relation. Les troubles, ils sont très fréquents. Hein. C'est vrai que nous, on s'intéresse aux troubles déclarés par les personnes. On leur donne huit possibilités de gêne avec leur voisinage, hein, qui peuvent aller des bruits, des remarques intolérantes, des problèmes de stationnement, qui sont par ailleurs plus fréquents dans les espaces ruraux qu'ailleurs. Et en fait, on observe que c'est 86% des individus qui, en fait, déclarent au moins une gêne de voisinage. Hein. Ils sont même assez nombreux à en déclarer plusieurs. Une personne sur quatre en déclare au moins quatre. Donc, effectivement, les gènes de ses voisins, c'est quelque chose d'assez important. Par contre, pour une partie des individus, ces gènes vont pas forcément découler sur des relations. On va même plutôt chercher à éviter les voisins, comme vous le disiez dans votre introduction. Il y a beaucoup de personnes qui vont chercher à éviter des voisins, à éviter la relation. Et puis ceux qui tentent de nouer des relations avec ceux qui les entourent, ben vont être ceux qui vont en plus de chances de voir ces relations dériver en conflit. Donc d'où cette fameuse phrase que l'on met dans les résultats de notre étude, hein, le conflit est effectivement une forme de relation de voisinage, puisque ce sont ceux qui nouent des relations dans leur quartier qui ont le plus de chances d'entrer en conflit avec leurs voisins.
Tiens un exemple de conflit de voisinage.
Cette riveraine en colère a appelé pour des bruits de machines à laver qui tournent la nuit.
Elle a commencé depuis 19h jusqu'à maintenant. Il est quelle heure là? Il est presque 1h30 du matin. Sinon, ça résonne beaucoup. Hein.
Oui, bonsoir madame.
À l'étage, ambiance hammam.
Le bruit, c'était le jacuzzi en fait.
Un jacuzzi de jardin gonflable.
Ça fait ça en fait.
Wilda, 39 ans, l'a loué sur Internet 100€ pour sa soirée d'anniversaire. Bruit inclus. Pas de quoi apaiser les relations déjà très tendues avec sa voisine du dessous.
Oui, j'imagine avec ce jacuzzi de jardin extrait de cet avis en février 2022. Charlie Caillou, à partir de quel moment une nuisance sonore devient-elle anormale?
Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que les juges prennent en compte d'abord l'environnement dans lequel vous vous situez. C'est-à-dire que un bruit qui est abusif en ville ne le sera pas forcément à la campagne, et inversement. Donc on prend en compte cet environnement-là pour décider si ce bruit-là, dans ce contexte-là, est anormal ou non. Et ensuite, c'est le juge qui décide. Comme je vous le disais, c'est une appréciation au cas par cas, et donc il n'y a pas de définition. Je ne peux pas vous dire là, ça c'est forcément abusif, ce sera forcément condamné, et ça passera.
Mais peut-on dire que la nuisance sonore peut devenir anormale en raison de sa fréquence, de sa persistance et de son intensité?
Absolument, ça ce sont les critères de l'anormalité, ce sont les critères effectivement du trouble anormal de voisinage.
Alors est-il vrai que l'on peut faire du bruit jusqu'à 22h chez soi, ou est-ce une idée reçue?
Non, c'est complètement une idée reçue en fait. On n'a jamais le droit de faire trop de bruit. Hein, on entend parfois aussi qu'on a le droit de faire la fête jusque tard dans la nuit une fois par mois, c'est complètement faux, ou pour le réveillon, ou pour le 14 juillet. Tout ça, c'est complètement faux. Évidemment, si vous appelez la police parce que votre voisin fait la fête le soir du 31 décembre, il y a moins de chances que la police se déplace, puisqu'il y a une sorte de tolérance certains soirs, mais on ne peut jamais faire de bruit, jamais faire trop de bruit, c'est toujours répréhensible et on est toujours sous la menace d'une amende.
Mais Frédéric Carpita.
Est-ce que ça finit vraiment au tribunal? Parce qu'il faut faire venir la police, un constat d'huissier, c'est quand même, ça prend un temps fou, et puis en fait, ça nous dérange, on est à la fois deux fois victime, en fait, le bruit et les démarches qu'on va mener ensuite.
Oui, de toute façon, je dirais que la première démarche à accomplir, c'est pas une démarche conflictuelle, c'est même tout le contraire, en fait. Il faut se déplacer chez le voisin, essayer de le rencontrer, de lui en parler, de prendre rendez-vous avec lui aussi, parce que peut-être que le moment où vous allez venir le voir, ce sera pas le meilleur moment pour lui, donc c'est bien de prendre rendez-vous avec lui, ne pas l'accuser, essayer de faire part de votre problème, pour qu'on essaie de trouver une solution ensemble. Donc, effectivement, la meilleure solution, c'est pas forcément d'appeler la police, ou d'envoyer la lettre recommandée tout de suite, parce que vous allez là cristalliser le conflit et ça ne va rien arranger. A priori, chacun va camper sur sa position. Ça risque de terminer devant le tribunal, ce qui est la pire des choses, parce que vous n'aurez rien arrangé. C'est-à-dire, même si vous gagnez en justice, le conflit sera toujours là et peut-être encore plus fort.
Indicatif.
Alors Charlie Caillou, peut-on faire des travaux bruyants en semaine jusqu'à 22 heures?
Alors ça, on peut se référer au règlement départemental, au règlement communal de la ville dans laquelle vous êtes. Et effectivement, il y a des horaires qui sont fixés dans chaque ville pour les travaux. Alors en général, la semaine, c'est entre 8h et 22h.
22h, c'est tard.
C'est tard, ouais, mais ouais. Ça dépend des villes. Hein, voilà, c'est entre 8h et 22h. Je dirais que de toute façon, là encore, hein, il faut pas trop s'en remettre au droit. C'est un juriste qui vous le dit. Il faut plutôt aller voir son voisin pour lui expliquer que bah, peut-être que ce soir, demain soir, il y aura un peu de bruit un peu tard parce qu'il y a quelques travaux à faire. C'est la meilleure solution pour ne pas générer de conflits.
Charlie Caillou, ai-je le droit de faire la fête le samedi, le vendredi soir et le samedi soir et faire beaucoup de bruit? Est-ce qu'il existe un droit dérogatoire de la fête?
Alors, non. Non, ça c'est une idée reçue. Non, il n'y a pas de droit dérogatoire à la fête. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas le droit de faire de bruit, trop de bruit, ni le vendredi soir, ni le samedi soir, ni le soir du réveillon, jamais. Et effectivement, ensuite, comme je vous le disais, si vous appelez la police pour le soir du 31 décembre, la police aura plus de mal à se déplacer. Enfin, elle ne se déplacera sans doute pas, puisqu'elle considérera qu'il y a une sorte de tolérance. Et donc... Il y a des petites tolérances comme ça, mais il n'y a pas de droit à la fête, non. Non.
Alors nous avons évoqué le bruit, il existe également des nuisances liées aux odeurs. Est-ce qu'il existe une législation semblable aux nuisances sonores sur les odeurs?
Non, il y a beaucoup moins de réglementations sur les odeurs. Alors je dirais que... Alors,
si... Je pense par exemple à mon voisin qui allume un barbecue sur son balcon ou dans son jardin et qui fait beaucoup de fumée.
Alors il n'y a pas de réglementation sur les barbecues, de manière générale. En revanche, il y a des réglementations en copropriété. Il y a le règlement de copropriété qui interdit un certain nombre de choses, justement pour que la vie en collectivité soit à peu près supportable pour tout le monde. Vous pouvez effectivement demander à votre voisin d'arrêter le barbecue si vous êtes dans un immeuble collectif en vous appuyant sur le règlement de copropriété. En revanche, si vous êtes dans une maison individuelle avec dans un jardin, là, sauf vraiment si vous faites un barbecue matin, midi et soir, sinon il y a peu de moyens d'empêcher son voisin de faire un barbecue.
Frédéric Carpita. Oui.
Sur les odeurs, là, alors je reviens dans les campagnes, il y a un sujet qui monte, c'est les unités de méthanisation. C'est-à-dire que
c'est
imaginez un compost avec des produits, des restes de végétaux, etc. Ça se met dans une grande cuve qui est bien fermée et on laisse maturer ce mélange et ça produit du gaz. Donc c'est une nouvelle ressource pour les agriculteurs. Mais alors pour les gens qui sont autour, c'est quand même le méthane, c'est quand même très très puissant quoi, comme odeur.
C'est un euphémisme.
Et là, c'est en train de monter quand même.
Sophia nous demande si le conseil syndical de son immeuble a le droit d'interdire à son chat de circuler dans la cour de son immeuble.
Il faut se référer au règlement de copropriété. Mmh. Le syndic de copropriété peut s'appuyer donc sur ce règlement pour interdire au chat de se balader. Il peut aussi reprocher au propriétaire du chat les déjections, les dégradations que le chat peut commettre dans la copropriété. Donc oui, mais en s'appuyant sur le règlement de copropriété et donc si des dégradations ont eu lieu.
Une grande source de conflit, c'est la mitoyenneté, hein, Charlie Caillou. Hein. La mitoyenneté, c'est une forme particulière de copropriété entre deux voisins. Hein. Elle concerne le mur, la clôture, le fossé qui sépare deux terrains. Expliquez-nous le type de conflit entraîné par cette mitoyenneté.
En fait, c'est un mur qui est indivis, c'est-à-dire c'est une indivision sur un mur entre deux voisins, donc ce mur sépare la propriété des deux voisins. Et donc, le premier conflit qui peut apparaître, c'est est-ce que ce mur est mitoyen ou est-ce qu'il m'appartient ou est-ce qu'il t'appartient? Et donc déjà sur ce point-là, il peut déjà y avoir des questions. Donc là, il faut s'en remettre aux actes de vente, éventuellement au cadastre qui peut donner des indices. Également, on peut s'appuyer sur des présomptions. Comment on a utilisé ce mur jusqu'à présent? Qui l'a plutôt entretenu jusqu'à présent? Et donc on va pouvoir déterminer comme ça qui est le propriétaire du mur ou s'il est mitoyen. Et parce que s'il est mitoyen, ça a des conséquences. Ça veut dire que il va falloir l'entretenir, il va falloir faire des travaux pour qu'il ne tombe pas. Et ces travaux, il va falloir les décider, les partager. Et donc, ces murs mitoyens sont source de litiges pour ces trois questions-là. Est-ce qu'il est mitoyen? S'il l'est, quels travaux on fait? et qui paye.
Sur l'entretien du mur mitoyen, la participation aux frais est proportionnelle aux droits de chacun sur le mur ?
Oui, absolument.
Oui. À qui appartient le brise-vue qui sépare deux propriétés que faire si l'un des deux voisins souhaite le remplacer, ce brise-vue ?
Bah là, de toute façon, comme d'habitude, en fait, il faut discuter entre voisins. Et bon, je dirais que de manière générale, sur tous les travaux, si on veut mettre une clôture, si on veut, quel que soit ce que l'on projette, il faut toujours en parler à son voisin pour savoir si lui d'abord veut participer, si lui aurait des exigences, si lui n'a pas aussi le même projet, auquel cas vous pourriez essayer de décider ensemble. Donc toujours de la discussion avant, il faut jamais trop s'en tenir à ce que dit la loi. En fait, la loi, c'est par défaut. Hein, on s'en
sert. C'est le juriste qui dit ça.
Ouais, c'est le juriste qui dit ça, mais je le dis de plus en plus. Hein. Vraiment, la loi, c'est qu'on s'en sert quand on n'arrive pas à tomber d'accord entre voisins. Mais le mieux, c'est d'avoir une discussion franche, honnête, et d'avoir des engagements réciproques sur toutes ces questions-là.
Moi, j'avais une question sur les végétaux parce que c'est une autre source. Hein, les feuilles qui tombent chez le voisin, la branche qui menace de tomber. Ma question, c'est est-ce qu'il est vrai qu'il y a une distance minimum pour planter un arbre ou enfin un quelconque végétal par rapport justement à cette clôture.
Ouais, alors il y a des règles dans le code civil, effectivement. Ces règles, elles disent que vous pouvez planter un arbuste à au moins 50 cm de la limite séparative si cet arbre ne dépassera pas 2 mètres. Au-delà de 2 mètres de hauteur, il faut le planter à au moins 2 mètres de la limite séparative. Donc cette règle-là, c'est dans le code civil. Elle ne s'applique pas dans certaines villes, notamment à Paris, parce que comme les terrains sont de toute façon assez réduits, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais la règle du code civil, c'est celle-là. Voilà, à 50 cm de la limite séparative, si la plantation ne dépasse pas 2 mètres. Au-delà de 2 mètres de hauteur, alors dans ce cas-là, il faut planter à au moins 2 mètres de la limite séparative.
Est-ce que j'ai le droit de me servir en cerise si les branches du cerisier débordent chez moi ?
Non.
Non, j'ai pas le droit. Non, j'ai le droit de ramasser celles qui sont tombées chez moi.
Ça, c'est toujours le code civil, mais là, de la même manière, il faut pas s'en tenir au code civil. Je crois qu'il faut passer un coup de fil à son voisin pour lui dire, voilà, j'ai cueilli quelques cerises sur le cerisier. En général, ça se passe très bien.
Allez, dans quelques instants, nous verrons comment mettre de l'huile dans les rouages quand ça coince entre voisins. Ce sera juste après The Turtles, Happy Together, à 10h28.
Imagine me and you. I do, I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world could be so very fine. So happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So
so happy together. We're happy together. So happy together. Happy together. So happy together. So happy together.
The Turtles, happy together.
Monsieur Lambert,
grand bien vous fasse.
Je tenais à m'excuser pour mes propos tenus lors de la réunion du syndic hier soir.
Ali Rebéi.
Évidemment, vous n'êtes pas un vieil imbécile, c'est nul.
Sur France Inter.
Comment bien vivre avec ses voisins, c'est notre thème ce matin avec le mensuel Ça m'intéresse. Le standard vous est ouvert, racontez-nous vos bonheurs et vos conflits entre voisins. Nos experts sont à votre écoute au 01 45 24 7000. Pas mal de messages. Pascal qui nous écrit « Mon voisin du dessous est venu un jour frapper à ma porte et m'a fait la démonstration de comment marcher pieds nus pour faire moins de bruit. Je n'en avais pas conscience. Depuis, j'y fais attention. » Un autre auditeur, Jacques, se méfier des voisins trop avenants dès le début. On dit aussi les bonnes clôtures font les bons voisins. Et puis Jazzy nous dit « J'ai un voisin qui fume du cannabis. L'odeur entre chez moi et dans tout le hall. Et les étages, que faire ?» Charlie Caillou, je rappelle que vous êtes juriste à PAP.fr.
Alors, ça sera compliqué, forcément. La première phase, c'est d'aller voir ce voisin pour éventuellement lui demander de fermer sa fenêtre lorsqu'il fume du cannabis, ou bien de fermer soi-même sa fenêtre au moment où ça commence à sentir. Alors, c'est pas très satisfaisant comme réponse, mais malheureusement, il n'y aura pas beaucoup d'autres choses à faire finalement, parce que c'est compliqué d'obtenir des preuves. On va pas agir en justice pour ça, on sent bien que ça serait complètement disproportionné. On va pas faire venir un huissier pour qu'il constate que ça sent le cannabis et que l'odeur, que la fumée vient de la fumée de la fenêtre du dessous. Donc malheureusement, je crois que le plus simple, c'est de fermer sa fenêtre ou de demander au voisin de la fermer. On peut éventuellement faire part de ça au syndic. Éventuellement, peut-être que ça sent dans les parties communes et que donc le syndic peut faire quelque chose, mais là, il n'y a pas vraiment de solution très très efficace, juridiquement en tout cas.
Joannie Caillouette-Rambillière, je rappelle que vous êtes sociologue. Votre étude « Mon quartier, mes voisins » a été réalisée en 2019 par l'Institut National d'études démographiques et le Centre Max Weber. Et cette étude indique qu'en milieu rural, les relations entre voisins semblent plus intenses.
Alors en milieu rural, certes, mais aussi dans certains quartiers de la ville-centre. C'est vrai que notre étude visait à comparer différents types de contextes résidentiels. Et ce que l'on met à mal, disons, c'est l'idée reçue selon laquelle dans les quartiers populaires, dans les grands ensembles, il y aurait une sorte de vie de quartier très importante. En fait, c'est plus du tout le cas, et d'ailleurs c'est plus du tout le cas depuis un certain nombre d'années. Certains travaux monographiques l'avaient déjà montré, mais c'est vrai qu'on le confirme.
C'est étonnant, ça. C'est étonnant.
C'est étonnant, en fait, c'est étonnant parce que ce qui ressort quand on va dans ces quartiers, c'est une sorte de petite minorité qui va voisiner beaucoup, qui va prendre de la place. Mais en fait, dans ces quartiers, on va observer qu'une proportion importante de la population, entre un quart, un cinquième, est complètement en repli des relations dans son quartier. Ce qui est très rare, en fait, en population générale. La plupart des gens ont des relations avec les personnes qui vivent autour d'eux. On est à peu près à 5% en moyenne de personnes qui n'ont aucune relation avec ceux qui les entourent. Et ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, dans les quartiers les plus favorisés socialement de la ville centre, les quartiers pour Paris, on a enquêté dans le quartier d'Auteuil, dans le 16e arrondissement, ou dans Batignolles, dans le 17e, et puis dans des quartiers équivalents à Lyon, la Croix-Rousse, ou le quartier d'Ainé. Et dans les communes rurales, effectivement, c'est là où les relations de voisinage sont les plus importantes, où on va parler davantage de sujets de conversation différents, où on va cumuler des invitations à domicile, des échanges de services avec les voisins.
Et votre étude nous dit, à propos de ces cadres qui habitent les quartiers bourgeois et qui échangent beaucoup avec leurs voisins, votre étude nous dit que leurs conversations paraissent combiner à la fois l'intérêt pour l'échange et l'échange intéressé.
Effectivement, en fait, c'est vrai qu'ils vont cumuler en fait une sorte de sociabilité, de convivialité, de repas, d'apéritifs, de goûter, d'anniversaire, avec ben, la possibilité de pouvoir compter sur ses voisins dès qu'il y a un besoin, que ce soit pour la garde d'enfants, pour venir arroser les plantes pendant les départs en vacances, etc.
Si je vous comprends bien, Joanie Caillouette-Rambière, la proximité sociale prime sur la proximité géographique.
Alors là, on parle plutôt de avec qui est-ce qu'on va est-ce qu'on va voisiner. Effectivement, ouais. Ça c'est un sujet qu'on a souhaité étudier dans cette recherche, puisqu'on reconstitue en fait des réseaux de voisinage. On s'intéresse à savoir qui voisine avec qui. Et par exemple, dans les contextes urbains où on a souhaité, les pouvoirs publics ont souhaité intervenir sur la composition sociale de la population pour créer de la mixité sociale. Eh bien, nous, on va essayer de voir est-ce que cette mixité sociale dans la composition sociale des quartiers se décline en mixité sociale des relations. Et c'est vrai que le constat, il est assez clair hein, dans l'étude. Plus un quartier est mixte dans sa composition sociale, plus les habitants vont sélectionner les personnes avec lesquelles ils vont rentrer en relation. Donc la mixité sociale au sens propre, ce que j'appelle dans mes travaux la mixité sociale arithmétique, qu'on peut calculer si on compte qui habite dans un quartier, eh bien en fait elle va pas se décliner en mixité sociale de relations. On va sélectionner parmi les voisins ceux qui nous ressemblent.
Et d'ailleurs nous avons une auditrice, Laura. Bonjour Laura.
Bonjour.
Alors vous avez choisi vos voisins, vous habitez Besançon, hein?
Exactement. Ben, nous, on a fait le choix en fait d'acheter une maison avec des amis à la base. Chacun de nous a son appartement et on partage certains espaces. On partage notamment le jardin, une petite buanderie. Donc du coup, ben, on a choisi de devenir voisins, sachant que ben, des années d'amitié nous ont mené à la conclusion qu'on partageait des valeurs communes, qu'on avait un socle commun de valeurs. Qui fait qu'au quotidien, on avait envie de reconstituer une sorte de micro, pas société, mais en fait un
phalanstère.
Exactement, un petit phalanstère à l'échelle de deux familles, on peut dire ça.
Alors qu'est-ce que ça fait que ses amis deviennent ses voisins? Comment vous réglez les conflits, tiens? Les conflits alors, éventuels les...
C'est un peu idyllique ce que je vais vous dire, mais des conflits proprement dit, il n'y en a pas au quotidien. Les travaux, quand on a acheté la maison, oui, ont été source de petits conflits, mais la parole était libre. Je pense qu'on a pu exprimer chacun nos mécontentements ou nos doutes. Donc on a pu régler des conflits assez sereinement. Et aujourd'hui, au quotidien...
Nick Picard, qu'est-ce que ça vous inspire, le fait de choisir ses voisins comme ça?
C'est une situation exceptionnelle. Et là, on est presque.
Je rappelle que vous êtes professeur de psychologie sociale.
C'est quelque chose de particulier. Mais ce qu'exprimait Laura à l'instant, c'est que elle a l'occasion de parler à ses voisins parce qu'ils ont des pièces communes. Et donc, quand on a des échanges en continu, c'est plus facile de parler des petits problèmes avant qu'ils deviennent des conflits. C'est ça. Mais si j'ai le temps, Ali, est-ce que je peux revenir un tout petit peu sur la résolution des conflits?
On va y revenir tout à l'heure, Dominique Picard. Rassurez-vous, je vais vous faire intervenir sur ce sujet très très important. Frédéric Carpita, il y a un papier hein, dont ça m'intéresse, consacré à ce choix des voisins.
Oui, parce qu'en fait, les habitations partagées aujourd'hui, on a attendu 10, quasiment 20 ans avant que ça émerge, et en fait, et que les élus surtout s'emparent du sujet, parce que en ville par exemple ou dans les petites couronnes, souvent la commune intervient en fait dans le projet. C'est là où souvent on glisse un peu de mixité sociale en fait. Hein, c'est une espèce d'échange. Vous avez le terrain à un prix correct, mais vous allez avoir des habitants qui sont pas aussi, on va dire, boboisés que vous. Et c'est quelque chose qui est en train de monter alors quasiment dans toutes les villes, et on a pris un exemple justement où il y a 6 foyers, et je rebondis sur ce que disait la personne, c'est que en effet ils ont veillé à avoir des espaces communs. Mmh. Ils avaient des coursives en fait entre chacun des appartements. Alors c'est là, ils ont une chance, c'est qu'ils ont fait le chantier ensemble et ils ont constaté, ils se disent qu'est-ce qu'on va faire avec ces coursives, et en fait c'est devenu des pièces mmh. à échanger. Et je trouve ça génial, quoi.
Joannie Caillouette-Ramblière.
Effectivement, je trouve que c'est intéressant ce témoignage qu'on a là sur le voisin ami. Et en fait, il est pas si rare, hein, puisque bon, là, il prend une forme un peu extrême où on va vraiment partager un espace collectif. Mais devenir ami avec ses voisins, c'est finalement une forme que prennent les relations de voisinage assez fréquentes aujourd'hui. Et surtout dans les villes-centres, dans les quartiers les plus favorisés socialement, on va trouver ou chercher parmi ses voisins des personnes avec lesquelles on va nouer des liens qui relèvent vraiment de l'amitié.
Merci.
Et c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permet de voir aussi que dans ces quartiers, c'est les quartiers où on choisit le plus les personnes avec lesquelles on habite, puisqu'on a plus de liberté dans le choix du logement, dans le choix du quartier. Et donc c'est là où on a le plus de chances de pouvoir nouer ensuite des relations fortes de type amical.
Frédéric Carpita.
Oui, je voulais vous poser la question. Est-ce que le traumatisme de la canicule de 2003, qui avait donc on avait eu donc des centaines et des centaines de décès de personnes
des
âgées et isolées? Et du coup, je pense à ce qu'on disait du voisin qui vient sonner, etc., et qui en fait qui cherche évidemment un contact, un échange. Est-ce que cet effet canicule a perduré ou pas?
Joannie Caillouette-Ramblière.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on compare bien avant la canicule en 1983 et bien après 2019, on voit pas d'effet net sur l'intensité des relations de voisinage. Par contre, et là je vais me référer à une petite étude complémentaire qu'on a fait à l'INED pendant le premier confinement, c'est vrai qu'en période de crise, on a pu observer, et ça c'est probablement un effet suite à la canicule, hein, que les personnes âgées ont été vraiment les premières bénéficiaires des échanges de services pendant cet épisode. Alors que, en réalité, en temps ordinaire, c'est des personnes qui reçoivent relativement peu de services, hein, par leurs voisins. Donc, on peut dire qu'en fait, elles ont une sorte de possibilité de recevoir des services en cas de crise, d'avoir une certaine vigilance des voisins, mais qui, au quotidien, observe relativement peu.
Merci beaucoup, hein, Laura, de nous avoir appelé. Alors revenons à certains troubles du voisinage, Charlie Caillou. Paul nous demande si son voisin est obligé d'entretenir son jardin. J'aimerais, nous dit-il, obliger mon voisin à élaguer ses arbres qui empiètent chez moi, mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Alors, élaguer les arbres, oui. Si les branches dépassent sur la propriété de cet auditeur, effectivement, il peut demander à son voisin de les élaguer. Il ne doit pas le faire lui-même, parce que s'il le faisait et que l'arbre mourrait, ben voilà, ça serait de sa faute. Mais il peut obliger effectivement son voisin à élaguer les branches qui dépassent. Sur l'entretien du jardin en général, non. Après, chaque propriétaire, chaque personne qui a le droit d'entretenir ou non son jardin, de le fleurir ou pas, de tondre ou pas. La seule limite à ça, c'est dans le sud de la France, des règlements qui impose aux locataires, aux propriétaires de faucher pour éviter les incendies. Et puis la deuxième limite, bah, c'est les nuisibles aussi, puisque plus on laisse l'herbe monter, et plus les nuisibles peuvent apparaître et provoquer des dommages sur toutes les propriétés attenantes.
Et si mon voisin a trois carcasses de voiture qui rouillent depuis 25 ans, qu'est-ce que je fais?
Ben, ça pourrait être effectivement considéré comme un trouble anormal de voisinage, puisque c'est un préjudice esthétique, c'est moche, bon, ça pollue en plus, puisque la voiture se dégrade sur le sol. Donc ça pourrait effectivement justifier une action en trouble anormal du voisinage, mais toujours, je le répète, d'abord en allant voir son voisin en lui disant, tu sais, ça c'est quand même pas terrible, peut-être qu'on pourrait essayer de trouver une solution ensemble.
Et Nicolas nous écrit, les chats de ma voisine montent sur ma voiture et ont rayé la peinture, ma voisine ne veut rien faire car elle dit que ces chats doivent pouvoir être libres.
Ouais. Bon, là il va falloir tomber d'accord, puisque une nouvelle fois l'action judiciaire elle ne va pas être satisfaisante, ça va être compliqué de prouver que ce sont les chats de cette voisine qui ont rayé la voiture et que ce n'est pas un autre chat ou une autre personne qui a rayé la voiture. Donc, je dirais que le droit n'a pas de solution pour toutes les situations. Et là, malheureusement, je pense qu'il faut, à part discuter, à part tomber d'accord, à part avoir des témoignages et réussir à convaincre la propriétaire des chats que si, ce sont bien ces chats qui ont commis le dommage, ça ne va pas beaucoup avancer.
Charlie Caillou, mon voisin a des fenêtres qui donnent directement sur mon jardin. Je n'ai plus aucune intimité. Qu'est-ce que je peux faire?
Alors, les vues, c'est très réglementé, toujours par le code civil. Et donc, on parle, il y a deux types de vues. Les vues droites, c'est-à-dire lorsque vous tenez devant votre fenêtre et que cette fenêtre donne directement sur le fond voisin. Et puis, les vues obliques où vous avez besoin de vous pencher à la fenêtre pour réussir à voir le fond voisin. Et donc, il y a des distances à respecter. 1,90 m pour les vues droites, 60 cm pour les vues obliques. Si le voisin ne respecte pas ces vues-là, eh bien, on peut lui demander de faire les travaux pour soit boucher la fenêtre qui donne sur le fond de cet auditeur, ou installer peut-être un verre dormant, c'est-à-dire qui laisse passer la lumière mais qui n'est pas transparent, par lequel on ne peut pas voir au travers.
Dominique Picard, on le voit depuis le début de cette émission, le voisinage est souvent source de conflits. Comment établir un dialogue sans heurts? Quelles sont les grandes règles pour un dialogue sans venin, sans violence verbale?
Oui. Alors là, jusqu'à présent, on se réfère beaucoup à la justice, et Charlie Caillou a bien dit que la justice ne pourrait pas tout régler. Alors je pense que pour régler des conflits, il faut d'abord abandonner l'idée qu'il y a quelque part quelqu'un qui est dans son droit et en face de lui quelqu'un qui transgresse le droit. Alors il y a des situations où c'est le cas, Charlie Caillou a très bien expliqué ça, mais dans la plupart des cas, il y a une gêne. Et c'est pas la peine de chercher quelque chose d'extérieur qui dit qui a tort ou qui a raison. L'entente, c'est au-delà du tort ou du raison. Parler à son voisin, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire quand c'est possible. Mais il faut voir qu'on peut penser que, et à juste titre, qu'avec telle personne, c'est pas la peine de parler, il n'entendra rien, ou qu'il va se braquer très vite pour des tas de raisons. Et à ce moment-là, on a intérêt à parler en présence de quelqu'un d'autre. Quand on évoque un problème, et bien sûr sur un ton qui n'est pas vindicatif, quand on évoque un problème en présence d'autres personnes qui peuvent non pas prendre parti, mais être témoins du fait qu'il y a un problème, éventuellement intervenir en souriant, ils ne sont pas impliqués au premier chef. Donc, ils peuvent à la fois minimiser le problème, l'offense, entre guillemets, et minimiser également la nuisance. Et ça donne une atmosphère où on peut régler plus facilement les problèmes. Alors que quand on s'affronte en tête à tête, eh bien, le ton peut monter assez rapidement. Donc, je crois que si on a l'intuition qu'un voisin sera mauvais coucheur dans un dialogue, ou qu'il se raidira, qu'il prendra mal les choses, on a intérêt à profiter d'un moment où, par exemple, il y a plusieurs personnes qui se connaissent, qui discutent un peu dans un parking, pour évoquer ce problème-là sur un ton décontracté. L'histoire des chats, par exemple, peut-être que ça aurait pu se régler comme ça, en disant oh, bah, ils sont sympas vos chats, mais vous voyez, ils viennent comme ça. Devant témoin, c'est très difficile de dire je fais ce que je veux, je m'en fiche, je ne vous écouterai pas.
Et notre juriste Charlie Caillou n'arrête pas d'acquiescer à ce que vous dites, Dominique Picard.
Oui, je pense que vous avez totalement raison. D'ailleurs, la loi est partie de ce constat-là pour imposer des conciliations avant toute action en justice. Depuis 2020, on ne peut pas saisir le juge sans avoir au préalable engagé une action amiable. Alors l'action amiable, ça peut être bon, une discussion un contre un, ça peut être aussi une, effectivement, comme le disait Dominique Picard, par l'intermédiaire d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur. Il existe des associations de médiateurs auxquelles on peut faire appel pour essayer de crever l'abcès et donc de trouver une solution ensemble. Mais, enfin, voilà, tout ça pour dire que je suis complètement d'accord avec ce que dit Dominique Picard.
Allez, dans quelques instants, on s'intéresse aux bonnes relations de voisinage. Un auditeur, Bruno, nous racontera ses relations amoureuses avec une voisine. Ce sera juste après le disque, après Anna Magidson, en deux mots.
En deux mots, je peux rougir, je peux sourire, je peux venir. Dans mes souvenirs, tu me fais vivre.
En deux mots,
un peu plus loin, un peu plus toi, un peu plus moi. Petit rien, un peu plus mien, toi et moi.
C'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça c'est pas mon affaire. Si je brûle en enfer, au moins j'aurais écouté l'air. C'est plus facile à dire qu'à croire, mais ça c'est pas mon histoire. Quand tout est dans le noir, ta main retient mon espoir. Si je m'oublie, prends garde.
Magidson, interprété en deux mots.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
Comment bien vivre avec ses voisins, c'est notre thème ce matin avec le mensuel Ça m'intéresse. Beaucoup, beaucoup de messages. Moël qui nous écrit « Je me suis rendu compte que lorsque l'on commence à connaître un peu ses voisins, leurs bruits quotidiens deviennent par miracle moins gênants. Je ronchonnais énormément contre mes voisins du dessus. Beaucoup moins depuis que nos filles sont devenues super copines. Même chose avec les voisins du dessous. » Val nous écrit « Je suis la voisine de Laetitia Gaillet. Je confirme. Nos trois très bonnes relations de voisinage et pas que pour le voler. Et puis Nathalie nous écrit, on parle de litiges entre voisins essentiellement dans une société qui a tendance au repli et à la méfiance, mais dans mon escalier, on organise des apéros des voisins, des partages d'objets, des partages de journaux et une micro-cabane à livres. On envisage même de mettre en commun certains appareils ménagers comme les appareils à raclette, les moules à gaufres, les ados et les grands-mères babysitent les petits. Bref, on se rend la vie quotidienne plus agréable et on se sent moins seul et plus écolo. C'est une très belle initiative, hein, ça, Frédéric Arpitet, ça m'intéresse.
Quand c'est spontané comme ça et que en plus on est intergénérationnel, ça veut dire que c'est des gens qui ont une intelligence collective extraordinaire et ils n'ont pas besoin d'un bailleur, d'une commune ou que sais-je.
Et la fête des voisins le 20 mai prochain peut permettre d'amorcer ce type de très belle initiative que Nathalie nous raconte.
Oui, en plus on a interviewé le monsieur qui s'en occupe là depuis 23 ans et qui reçoit donc les communes l'appellent pour avoir des banderoles, etc. avec le logo. Et il dit qu'en fait, c'est en train de... ça a explosé, en fait. Mmh. Évidemment, après deux années sans fête des voisins, il y a... je pense que tout le monde va se rattraper, quoi.
Le monsieur s'appelle Athanase Périfan. Votre regard, Dominique Picard, en quelques mots, sur la fête des voisins, ça fait rêver la psychologue sociale que vous êtes?
Complètement, mais je ne rêve pas, puisque ça existe.
Vous y participez, vous, à la fête des voisins, par chez vous?
Je l'ai faite quand j'habitais Marseille, oui. Mais ce qui est bien avec la fête des voisins, c'est que d'abord, son succès, et ce succès qui dure, ça prouve tout simplement que ça correspondait à un besoin. Donc ça déjà, c'est un point important. En plus, la fête des voisins, c'est pas forcément pour se faire des amis, mais en tout cas, c'est pour repérer des gens qu'on connaît, et ça permet aussi de trouver ces fameux témoins dont on a besoin quand on a un petit litige avec quelqu'un. Ça permet aussi d'identifier les gens. Moi, j'ai adoré votre auditeur qui a dit que un bruit est moins gênant quand on a identifié la source du bruit comme venant de gens sympathiques. Eh bien, la fête de voisins, ça sert aussi à ça. Si on identifie d'où vient la gêne, on la trouve tout de suite plus sympathique.
Et nous accueillons Bruno pour terminer cette émission sur une note d'amour.
Bonjour Bruno. Oui, d'amour, on va tempérer, mais oui, d'amour, au départ, pour vous avertir sur les dangers du partage entre voisins.
Ah, mais tiens, racontez-nous Bruno.
Oh, ben c'est simplement qu'il y a quelques années, on est tombés mutuellement très amoureux, ma voisine et moi, ma voisine du dessus, dans un immeuble de la Croix-Rousse dont vous parliez tout à l'heure, donc des immeubles très sonores, et au bout de 6 mois, la passion s'est arrêtée d'un côté et a continué de l'autre. Donc voilà, je voulais juste avertir les auditeurs.
Alors Bruno, comment ça se passe concrètement après une rupture dans l'immeuble, voilà?
Bah, quand personne ne veut déménager parce que chacun aime bien son appart, c'est très dur. Et 4 ans après, quand il y en a un des deux qui déménage, c'est une sorte de libération.
Mmh. Mais enfin, vous avez vécu 6 jolis mois quand même, rassurez-nous.
Oui.
Joanie Caillouette-Tremblière.
Oui, c'est marrant cette anecdote pour conclure l'émission, puisque je disais tout à l'heure que nous on a enquêté dans 14 quartiers dans la Croix-Rousse, et on a coutume de dire que la Croix-Rousse c'est nos champions des relations de voisinage, hein, c'est là où les relations sont les plus intenses, les plus intimes. Eh bien là, on a une anecdote qui l'illustre très bien.
Et là, vous intervenez, Charlie Caillou, après la rupture.
Ah, pour la rupture, je peux, oui, effectivement, oui, pour les divorces, les choses comme ça, oui.
Merci beaucoup, Bruno, d'être intervenu ce matin. Merci à tous. Merci, Joanie Caillouette-Ramblière de l'INED. Merci, Dominique Picard. Vous revenez très vite dans cette émission, paraît-il. Merci, Charlie Caillou. Et merci, Frédéric Carpita. Le nouveau numéro de Ça m'intéresse est disponible en kiosque. Et c'est un numéro avec à la une...
Le ventre.
Ah, tout
mais pas, et ben on parlera moins de nourriture, un petit peu quand même.
Allez, demain, comment les animaux nous aident à philosopher ?